se sale. Con toda mi moto, mami, con todo mi chale. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, vení aquí. Lo muevo de lado a lado. Bonsoir, je suis Anne Boucharla et vous êtes dans l'émission Les Jeunes Partagent, où je reçois des jeunes inspirés et inspirants. À l'âge où certains d'entre nous hésitent encore entre une carrière de super-héros ou d'astronaute, Damien Béal avait déjà choisi sa voie. À 14 ans, il embrassait sa passion pour le bois en entamant un CAP menuisier. Tandis que certains se perdaient dans les dédales de l'adolescence, Damien sculptait déjà son destin avec une détermination qui ferait pâlir d'envie les arbres de la forêt de Fontainebleau. Mais ce n'était là que le début d'un voyage qui le mènerait bien au-delà des bancs de l'école. Chez les Compagnons du Devoir, Damien a parcouru la France, laissant derrière lui une traînée de copeaux et d'éloges. De Poitiers à La Réunion, chaque étape de son tour de France était une occasion d'apprendre, de grandir et surtout de taquiner le bois. De retour dans sa patrie de Versailles, Damien ne s'est pas contenté de contempler les jardins du château, non, il a mis les mains dans le combuis, ou plutôt dans le bois, en travaillant dans une entreprise de la région. Mais en tant qu'artisan et artiste, Damien avait soif d'indépendance, alors à 21 ans à peine, il a bravement décidé de voguer en solitaire et de fonder l'atelier Damien. Damien Béal ne suit pas le chemin tracé par ses aînés. En 2014, il a décidé de secouer le monde de la menuiserie en créant le premier sac en bois et cuir. Un virage audacieux qui l'a propulsé sur le devant de la scène artisanale où il continue, 10 ans plus tard, à surprendre et à émerveiller avec ses créations toujours plus innovantes. Bonsoir Damien Béal, je suis ravie de vous recevoir sur Aligre FM ce soir.
Bonsoir Anne, merci.
Alors, une chose qui m'a marquée, c'est que quand on entre dans votre atelier à Versailles, on a une odeur pénétrante. Dès qu'on franchit le palier, c'est un parfum riche de bois mêlé à la douce effluve de cuir tanné. C'est un vrai régal. Donc vous êtes installé à Versailles, qui est un territoire d'excellence pour les métiers d'art. Et vous avez investi une des baraques des carrés Saint-Louis, où se nichent les artisans d'art. Est-ce que c'était important pour vous de faire partie d'un collectif d'artisans,
Je pense que ce qui me plaisait, c'était l'idée d'être vu, en tout cas, pas tant pour moi, mais plutôt qu'on retrouve un peu l'idée de l'artisan qui travaille dans un centre-ville ou dans une rue et qui peut s'intégrer un peu au quotidien des gens.
Donc une rue où les gens ont l'habitude de faire leurs courses.
Tout ça, voilà, exactement, ouais. Un peu au milieu dans des centres-villes où les gens peuvent passer de la vitrine du boucher à la vitrine de l'artisan qui est en train de fabriquer un objet. Et les carrés Saint-Louis s'y prêtent avec ces baraques qui sont pour plusieurs personnes des ateliers ou des ateliers boutiques. En tout cas, la ville de Versailles essaye depuis plusieurs années de pérenniser cet aspect-là des carrés.
Qui était déjà
historiquement un lieu d'artisanat, en tout cas, et qui est dans le plus vieux quartier de Versailles, pas très loin de la rue du Vieux-Versailles.
Donc tout ça se perpétue avec différents artisans.
Ouais, tout à fait. On peut retrouver des doreurs, des personnes qui font de la restauration de cadres, de tableaux. On a des entreprises plus contemporaines, des gens qui travaillent le digital. Mais on peut retrouver un artisan cordonnier, un artisan maroquinier, menuisier comme moi. Enfin, c'est très varié. Ou des créateurs aussi, des céramistes. Voilà, on est.
Donc l'idée, c'est que ça soit vivant, que les gens, passent effectivement de la baguette de pain éventuellement au sac en bois.
Oui, tout à fait.
Et que ça soit une démarche assez...
C'est assez... je pense qu'on a tous cette idée que l'artisanat est quelque chose qui doit perdurer, et le fait d'être en vitrine, de se montrer aux familles, aux enfants, dans un quotidien, en fait, c'est un moyen de continuer de le défendre, et que dans notre monde contemporain, montrer que c'est quelque chose qui a encore sa place largement même.
Oui, donc c'est important d'être au milieu de la vie. Voilà. Tu as appris à manier le rabot avant de savoir marcher. Je crois que tu avais commencé très 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 jeune.
Oui, c'est vrai. Alors le rabot, le rabot, ça a été le couteau en premier même. Très jeune, à partir de 7-8 ans. à tailler un bout de bois, faire un arc, des flèches, puis rapidement des objets. Je pense que j'ai vite été fasciné par l'idée de fabriquer un objet, fabriquer quelque chose,
Ouais.
ou donner une seconde vie, ou transformer, ou en tout cas toujours en lien beaucoup avec le bois, mais parce que je pense que c'est une matière qui est à portée de main facilement. Moi, j'ai grandi à la campagne, et donc c'est facile d'aller dans le jardin, trouver un bout de bois avec un couteau, essayer de faire des choses. Voilà, les choses sont parties de là.
Sont partis de là. Donc ça veut dire que tu as un rapport très très fort à la nature, que tu respectes forcément, parce que c'est quelque chose que tu as toujours connu. Tu as été élevé dans la nature, dans les...
Ouais, tout à
Ouais.
fait. J'ai beaucoup habité à la campagne, aussi bien aussi en montagne. En tout cas,
Oui.
la nature et la contemplation et le respect, effectivement, de ce qui nous entoure a toujours été quelque chose d'important. Je pense que quand on commence à travailler le bois, on développe un espèce d'amour pour ça qui n'est pas que sur la planche de bois, mais aussi la forêt.
La
J'ai jamais eu
forêt,
peur, enfant, d'aller me balader dans la forêt seul. Ces choses-là, ça a toujours été quelque chose d'assez facile pour moi. Et c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui. Versailles est une ville très agréable, très verte. Je pense que ce qui me plaît aussi beaucoup dans Versailles, c'est qu'on est très près de la forêt, de la campagne. Et voilà, c'est assez simple.
Oui.
D'ailleurs, mon atelier de menuiserie, avant d'être à Versailles, j'ai eu un atelier de menuiserie en vallée de Chevreuse qui était au milieu d'un champ, au milieu des chevaux, au milieu de nulle part. Ça a dû pendant des années. Voilà, j'ai travaillé dans ce cadre-là.
Donc pour l'inspiration aussi, ça aide peut-être de voir d'être proche de la nature et
Oui, tout à fait.
ouais.
C'est une source d'inspiration. C'est aussi une source de tranquillité pour moi, loin du bruit de la ville, de tout ça.
Et on a perdu ce rapport au fonctionnement des choses aujourd'hui ou à la nature? Est-ce qu'on s'est peu à peu éloigné? Est-ce que c'est important justement de ramener ça dans le quotidien des gens?
Je sais pas si on l'a perdu ou si on l'a juste oublié. Je crois qu'à l'origine, ça fait un peu partie de nous tous. Je crois que c'est notre vie un peu moderne, rapide et pressée qui nous fait oublier ça. Les gens, quand ils sont en vacances, ils peuvent partir en ville, mais généralement, se ressourcer, c'est se ressourcer auprès de la nature. Donc, après, des choses, le travail des artisans, le mien ou quoi, peut permettre de revenir un peu à des fondamentaux et en tout cas travailler la matière naturelle, la transformer. Et j'espère en tout cas que ça peut amener aux gens un certain retour à des choses fondamentales.
Alors, ça a été un vrai choix au départ pour toi et non pas un choix de mauvais élève. Tu t'es dit très tôt, c'est ça que je veux faire. Je veux construire des choses. Est-ce que tu t'es dit directement, je vais être menuisier?
Je pense que j'ai très vite voulu faire un métier de mes mains ou faire un métier de la création, de l'architecture, du design, sans forcément tout de suite mettre des mots dessus. J'étais pas le meilleur de ma classe, mais en tout cas, j'ai pas fait ce choix-là parce que j'étais pas le meilleur de ma classe. Les choses sont venues véritablement par envie de pouvoir. En fait, c'était quelque chose qui m'épanouissait et pour moi, le quotidien devait être épanouissant. Et ça passait à travers ça. Et il y a un moment, à mes 14 ans, où les choses se sont un peu précisées, où le cursus classique devenait de plus en plus compliqué dans cette idée d'épanouissement, justement. Et le métier de menuisier était celui qui, sur le papier, représentait le plus ce qui pouvait m'attirer, en tout cas, avec le regard d'un enfant de 14 ans.
Oui, mais le plus qui pouvait t'épanouir pour une vie future
Ouais,
et
tout à
faire
fait.
vraiment ce qui te
Et je pense que c'était
plaisait.
l'idée de fabriquer, en fait.
Oui,
À
de
14 ans, j'ai fait
construire.
un stage. Le collège m'a fait faire un stage que j'ai fait aux ateliers Saint-Jacques, qui est un atelier de menuiserie des Compagnons du Devoir. Et donc, je commençais à réfléchir à ce changement un peu de cursus, de sortir un peu du collège pour aller vers le professionnel. Et le collège m'a demandé de faire un stage pour voir ça. Donc, je me suis retrouvé à cet endroit-là. Et alors, ça m'a bouleversé, j'ai adoré ça. Je pense que j'avais 14 ans et je pense que j'ai dû rentrer de ce stage en disant que je voulais me mettre à travailler et arrêter les études et ne faire que ça.
Des étoiles plein les yeux.
Les étoiles plein les yeux. Et c'était ça, c'était le fait de fabriquer, d'apprendre de ses mains, qui était un peu le prolongement de ce que je faisais par moi-même depuis des années, en fait.
Oui.
Donc voilà, les choses se sont lancées comme ça, un peu plus concrètement en tout cas.
Et ensuite, donc, tu es partie, tu t'es orientée sur un CAP pendant 3 ans, c'est
Tout à
ça?
fait. Donc, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Je pouvais pas encore aller chez les compagnons, ce qui était mon souhait. Donc,
C'était ton souhait, ouais. Tu connaissais déjà?
alors, j'ai connu les compagnons pendant ce stage.
D'accord.
Parce que j'étais entouré de compagnons, je connaissais pas trop sinon, mais du coup, je commençais à avoir quelques connaissances sur ce qu'étaient les compagnons. Et surtout, j'avais bien noté que les compagnons sont des gens passionnés de ce qu'ils font et que ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai pas pu tout de suite faire ça. Je suis parti en lycée professionnel dans le 15e arrondissement, au lycée Bourseuil, pendant 3 années. Où j'ai eu un CAP de menuiserie et agenceur, il me semble, de mémoire. Et suite à ça, j'avais 17 ans et du coup là,
Tu as
je suis
pu
parti,
enfin
j'ai pu
partir,
enfin
ouais.
partir chez les compagnons et je suis directement parti dans la ville de Poitiers où j'ai fait ma première année,
Oui.
qui était le démarrage chez les compagnons pour partir sur le Tour de France.
D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation des compagnons du devoir? Est-ce que c'est une formation très technique? Est-ce que c'est une formation qui est plus créative? Est-ce que.
Alors ça a beaucoup évolué, ce que moi j'ai vécu est un peu différent aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était peu créatif, très technique, plutôt exigeant. C'est une formation bien sûr sur le métier, mais aussi c'est quelque chose d'assez humain. On vit en communauté, il y a des règles de vie, tout ça associé à l'apprentissage d'un métier.
Ouais, d'accord. Donc c'était quelque chose d'assez complet. C'était à la fois un apprentissage, comme tu dis, de vie et parce que tu étais très jeune, donc 14 ans
10, ouais, 17
et
ans.
17 ans, pardon, et de se construire en tant que jeune adulte. Et puis en même temps à commencer à apprendre les rudiments d'un métier.
Oui, c'est ça, c'est déjà un travail en entreprise,
Oui.
une vie en communauté.
Et oui. Et donc ça, on apprend énormément
Ouais,
déjà.
ça
Ouais.
en apprend beaucoup. Et puis, un peu le début du chemin vers les choix de vie, quoi. De
Ouais.
quelle tournure vont prendre les choses. On a 17 ans, puis 18, puis 19.
Ouais, c'est très jeune.
Ouais, vivre en communauté
Ouais.
avec tout ce que ça implique, les difficultés, les réussites, les échecs, les
Ouais.
envies de rentrer chez
On
soi.
est confronté à
Appeler ses
ouais.
parents en disant je veux arrêter,
Ouais,
je veux rentrer à la maison, toutes ces
ouais,
choses-là.
ouais.
Ça,
Des moments de découragement.
ouais. Et à la fois,
Ouais.
on se voit grandir professionnellement avec un vrai savoir-faire
Ouais.
qui le métier fait partie du quotidien. En entreprise la journée, les cours le soir, le samedi à l'atelier avec les compagnons. C'est quelque chose qui emplit beaucoup, beaucoup de temps. Et on commence à en voir le résultat et ce à quoi ça peut servir pour l'avenir, quoi.
Oui, donc c'est un côté très gratifiant, j'imagine, d'être comme ça dans l'action avec
Oui,
des.
tout à fait. Il y a aussi tout un truc de retransmission. Quand on commence à avoir un niveau, on commence à apprendre aux plus jeunes, alors qu'on nous apprenait quand on est arrivé. Il y a plein de choses qui sont très nourrissantes pour le développement de soi-même, professionnel, le voyage, les rencontres.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était dit Old Man de Yom. Merci pour ce choix, Damien Béal. Pourquoi ce choix?
Cette musique, c'est la musique de la tranquillité pour moi, d'une espèce de. Comme la méditation positive.
Oui.
Chaque musique donne des sentiments de bien-être différents, de oui. motivation, de, voilà. Et en tout cas, celle-ci, c'est la tranquillité.
Donc, ça t'aide.
Espèce d'équilibre.
Ça t'aide quand tu crées.
Quand je crée, quand je travaille et que je veux être concentré.
Focus.
Voilà. Ouais. Ça ne vient pas interférer, au contraire, ça vient ajuster les choses.
Ça vient, ouais. Eh bien, merci. Donc, on parlait de tes différents voyages lors de tes formations des compagnons du devoir. Est-ce que, en quoi ces voyages ou ces formations t'ont nourri aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel?
Je dirais que c'est ce qui m'a forgé certains aspects qui sont encore présents aujourd'hui, la résilience, la persévérance. Alors, il y a le côté humain où quand on vit en communauté, faut apprendre sur soi. On peut vivre des fois des choses un peu douloureuses, des mauvaises compréhensions. Il y a un aspect au voyage et aux compagnons que j'ai toujours trouvé à la fois le plus difficile et un des plus intéressants, surtout quand on est entre 17 et 21 ans, à des âges où
on se construit.
C'est qu'on a un peu la page blanche de la ville. Les compagnons, en fait, on change de ville tous les ans ou tous les 7 mois. Donc il y a ces périodes de changement de ville où on fait des demandes de destination où on voudra aller.
C'est moi qui fais des demandes,
j'en fais plusieurs avec des souhaits. Et puis à un moment, on attend la réponse de quelle va être la ville qu'on a réussi à avoir.
Ouais.
Et en tout cas, arriver toujours dans une nouvelle ville, on a beau vivre en communauté et tout, on voyage seul. Un Tour de France, ça se fait seul, avec des gens qu'on rencontre et tout, mais c'est une construction personnelle.
Donc on est confronté à soi-même.
On est confronté à soi-même. Et puis je pense que comme tout humain, y a des villes où on est humainement bon, il y a des villes où on est un peu moins bon. Et en tout cas, le fait de passer de ville en ville ouvre toujours une page blanche et permet toujours d'arriver dans une ville en essayant d'être... pour cette ville-là, une meilleure version de soi-même de la ville d'avant.
D'accord.
Ça m'a beaucoup nourri, en fait, pour grandir, pour évoluer, pour essayer d'accepter aussi que, on n'a pas toujours le meilleur comportement, on n'est pas toujours parfait, on ne fait pas toujours les choses bien, on ne travaille pas toujours autant qu'il faut. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça nourrit. C'est un des aspects, moi, des compagnons qui m'a beaucoup plu et qui, à la fois, a été le plus difficile.
Et oui, effectivement, parce que c'est aussi propice à la création de changer comme ça de lieu, de...
Oui, et chez les compagnons, à cette époque, la création, ça m'est arrivé...
On va en parler ensuite, oui.
Petites anecdotes un peu difficiles.
Oui, c'est pour ça que je te demandais si c'était une formation très technique, parce que toi, on va y venir, mais tu as un profil quand même de créatif et de presque d'inventeur. Et est-ce que tu t'es senti un petit peu comme ça, un peu bloqué?
Je me suis senti bridé à des moments.
En fait,
chez les compagnons, on apprend les choses dans un ordre. On a des carnets de travail. Pour un menuisier, par exemple, il va arriver, il va commencer à apprendre à dessiner, à fabriquer des portes, puis des fenêtres, puis des escaliers. Avec dans chacun de ces termes-là, il y a des échelons qui se font à travers le savoir-faire. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien quand j'ai, par exemple, appris à faire de la courbe. Alors, la courbe, c'est quoi? C'est des pièces de bois cintrées qui ont une forme arrondie. Souvent, on le travaille pour des portes au début. Moi, j'aimais bien fabriquer des objets en réutilisant ces techniques-là. Donc, je prenais la technique traditionnelle, mais je l'amenais sur des objets que je dessinais plus contemporains, comme une table basse. Mais je me souviens une fois à Toulouse avoir fait un panier... l'esprit d'un panier en osier, mais tout en bois, avec du lamellé collé, des courbes, la hanse qui était faite d'une chaîne taillée dans la masse, enfin des choses un peu comme ça, ça plaisait pas toujours. Pas tant pour... Enfin, ça venait un peu perturber les codes. Je pense qu'aujourd'hui, les compagnons ont beaucoup évolué sur cet aspect-là, mais à l'époque...
Tu transgressais un peu les règles.
Ouais. Et du coup, je me suis fait un peu taper sur les doigts.
Et est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que ça a permis à ta créativité de s'ouvrir encore plus, d'être bridée finalement de...
En tout cas, un jour, elle a explosé. C'est-à-dire qu'un jour, ça n'a... Cette envie, elle a toujours été là. Elle a été bridée. Et effectivement, il y a un jour dans mes choix où c'était plus possible.
Tout
en
est
fait.
Sorti.
C'est ça. Il fallait que ça puisse exister pleinement.
Oui.
Et c'était des choix risqués, ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il y a un jour où j'ai fait ce choix-là. Et il en est né des premières créations. Mais c'est un peu comme ça qu'est né les sacs 10 ans plus tard.
Oui.
Besoin de créer. un peu dans la même forme que l'enfant avec son bout de bois et oui. son bâton qui essaie de fabriquer un objet. Bah, ce qui, moi, me nourrit le plus aujourd'hui, c'est encore un peu ça.
C'est encore la création.
Ouais.
Mais est-ce que tu dirais, si je dis que tu es un inventeur, est-ce que tu...
Ça peut... Oui, je pense que sur certaines choses, oui.
Sur certaines choses, ouais, finalement, parce que tu as porté avec ton regard à voyager à travers les matières, les matériaux différents, aller comme ça, tester, fouiner.
Oui,
non?
Puis j'aime bien trouver la petite solution, le truc un peu, ouais. un peu technique, un peu... Alors, y a la partie parfait. Création, elle va être dans l'esthétique. Le dessin, les propres, ces choses-là, mais c'est vrai que même détourner un objet, j'ai toujours aimé beaucoup ça. En tout cas, ça m'a toujours beaucoup, ça a créé beaucoup d'épanouissement en moi.
Oui.
C'est un peu une recherche constante.
En fait, on a l'impression que ta démarche, c'est vraiment toujours, le leitmotiv, c'est sortir des sentiers battus, explorer, analyser, toujours avec un grand souci de rigueur et de créativité, parce qu'on sent que tu es hyper rigoureux. Dans ta façon de penser.
C'est clairement la liberté, en fait.
C'est la liberté.
C'est pas une recherche de... mon but n'est pas de sortir des... En soi, c'est pas une recherche de sortir des choses. Ouais. C'est un peu les conséquences.
Ouais.
C'est plus une recherche de liberté créative. Quand je crée des objets... Alors, il y a des objets où je vais me poser pendant plusieurs semaines, dessiner, réfléchir quand il y a un peu une demande ou quelque chose de défini. Mais j'ai aussi des moments de création qui existent quotidiennement, qui vont être de prendre un morceau de quelque chose, d'une matière, un morceau de bois, un morceau de cuir, et en sortir un objet sans même savoir où je vais sur le moment.
D'accord.
Je peux avoir des c'est presque viscéral. Je sais qu'il y a des gens qui ont ce problème de la page blanche. Enfin, il existe souvent autour de la création cette espèce de mythe de est-ce qu'à un moment, on n'a plus d'idées, de la difficulté. Voilà.
Toi, tu ne connais pas ça.
Moi, je ne connais pas ça. J'ai plutôt le problème inverse.
De te réfréner.
De réfréner et d'avoir appris à le gérer. Quand j'ai ouvert les vannes, d'avoir appris à équilibrer et d'être...
À te recentrer un peu.
De me recentrer ou de ne pas être... de pas en être mal, de pas pouvoir y aller, parce que créer, reste quelque chose qui coûte de l'argent, qui prend du temps, de pouvoir me l'autoriser, en tout cas, le plus possible pour créer un équilibre entre la fabrication qui est de l'ordre du devoir, où je dois fabriquer quelque chose qui est déjà créé pour un client, et me dégager du temps pour moi pouvoir créer le nouvel objet, quel qu'il soit.
Et t'amuser.
Et m'amuser, en fait. Je pense
que si t'avais pas cette partie créative, ça serait peut-être un petit peu ennuyeux pour toi, trop dans la norme.
Ah, mais complètement. Il y a des moments où dans le développement, je me suis posé cette question de me dire est-ce que je serais capable d'avoir des salariés, les gérer et ces choses-là. Et en fait, non. Moi, ce que je veux, c'est créer et fabriquer. C'est ça qui me nourrit et qui me plaît. Et le fait de ne pas me donner de limites sur les matières, sur le type d'objet, de pouvoir passer d'une lampe à un bijou, un sac, un vélo en bois, de m'autoriser tout ça, fait que c'est ces limites-là en fait, que j'essaie de pousser, fait que ça n'a pas de fin.
C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est ça qui est intéressant.
Après, c'est ce que moi j'en fais, ce que je veux transmettre. Ouais. C'est peut-être ça qui fait évoluer la création aujourd'hui.
Oui. Oui, je pense aussi. Et puis, il y a aussi tout ton engagement éco-responsable. C'est aussi dans cette démarche-là.
Ouais, je pense que c'est venu en deux temps. C'est d'abord venu par... quand on parle de matière ou d'objet éthique, pour moi, il y a d'abord une réflexion autour de l'éthique qui est de bien fabriquer quelque chose de très, très durable, le plus possible. Et c'est d'abord cet aspect-là qui rend un objet écologiquement viable. Pour moi, c'est déjà qu'il dure. Et puis, il y a la question des matières, il y a la question de la consommation des matières. Et puis, de plus en plus, je suis un peu... Ça va être... je ne sais pas comment je vais gérer dans ma vie ce virage, mais il y a le fait de rajouter des objets sur notre planète. Alors, même si moi, je le fais à une petite échelle, je fabrique et je crée quand même énormément d'objets. Depuis 2 ans, je travaille sur des choses plus artistiques qui, pour le coup, ont le pouvoir de transmettre autre chose. Et ça m'intéresse aussi de... peut-être avec le temps faire moins d'objets ou aller fabriquer des choses qui ont une utilité très marquée dans les objets que
Par
j'ai créés.
Je
dirais que dans tout ce que je fais aujourd'hui, je fais des mangeoires pour les oiseaux. Alors, on pourrait se dire comme ça, mangeoire pour les oiseaux, ok, il a créé une mangeoire, très bien. Sauf que c'est un objet d'utilité, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où on sait que les oiseaux, à notre époque, ont besoin d'être nourris ou ces choses-là. Typiquement, là, c'est une création... qui a un certain sens et qui dégage certaines valeurs. Alors oui, quand je fais un sac qui va durer 20 ans, ça dégage aussi une valeur et quelque chose. Mais ça reste un objet consommé de plus.
Oui, je comprends.
Quand
oui.
les gens viennent acheter une mangeoire dans ma boutique, ils achètent quelque chose qui est peut-être esthétique et c'est pour cette part-là qu'ils l'achètent, sauf qu'ils achètent quelque chose pour quelqu'un d'autre.
Et oui.
Qui
oui.
est un oiseau qui a un besoin. Et, oui. Voilà. Oui. et peut-être que les créations...
Et qui est pour notre écosystème. Qui
oui,
est très
complètement.
Bon.
Oui. Donc, peut-être ouais. que dans les années à venir, c'est vers ce genre de choses que je vais avoir plus envie de tendre.
Ouais.
Mais c'est pas si simple.
Oui, et ben, c'est un sacré questionnement.
Ouais, tout à fait. They've been saying you're sophisticated.
Nous sommes toujours sur Aligre FM avec Damien Béal. Donc, c'était The Adults Are Talking de The Strokes. Alors, pourquoi ce choix, Damien Béal ?
Pour moi, c'est la musique de l'énergie. L'énergie du matin, l'énergie pour aller faire du sport. d'énergie pour prendre la voiture et aller voir loin là-bas si on y est, ce genre de choses.
Et bah, ça y est, on est plein d'énergie là pour l'émission. Alors, on parlait de tout ce qui était de la conscience durable, fabriquer des objets. Est-ce que c'était quelle signification ça a pour toi aujourd'hui? Est-ce que
c'est plein de questionnements dont j'ai pas les réponses sur tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de 14 ans où on veut fabriquer à 39 ans aujourd'hui, il y a un chemin qui s'est fait. J'ai beaucoup plus de liberté créative que je n'en ai eu par le passé, et j'ai travaillé pour que cette liberté existe. Et je continue de travailler pour qu'elle perdure. La question va être qu'est-ce que j'en fais? Et il commence aujourd'hui, depuis aussi le Covid, qui a un peu bousculé des choses dans la façon de travailler, de savoir où on va, qu'est-ce que représente le travail qu'on fait. En tout cas, je ne reste pas ancré juste dans cette idée de faire des objets, les créer. J'ai besoin de ça, mais j'aime bien l'idée que ça puisse avoir un peu de sens.
De sens, oui. Et est-ce que ces réflexions que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu transmets aux autres? Est-ce que, en tout cas, ce sont des messages que tu veux faire passer aux clients, aux gens qui rentrent dans ta boutique?
C'est quelque chose, en tout cas, je peux en parler, je peux en discuter. Souvent, quand les gens me posent des questions sur des créations, je vais leur expliquer la démarche qu'il y a derrière. Je pense que le fait d'avoir fait ce choix de travailler en vitrine devant les gens, de montrer la réalité de la totalité des choses, j'ai pas de problème à dire que des fois c'est facile et des fois les périodes sont difficiles.
T'es transparent.
Je suis transparent. Sur mes années d'indépendant, il m'est arrivé des choses extraordinaires où dans le monde d'aujourd'hui, en fait, tout peut être une histoire d'image. Moi, j'aime bien essayer de transmettre une certaine réalité des choses, tant sur les réseaux que dans ma boutique quand les gens passent.
Et à ce propos, quel regard ont les gens sur l'artisanat aujourd'hui? Est-ce que c'est...
Je pense que le regard a énormément changé.
Oui.
En tout cas, je pense que les gens ont toujours globalement eu un regard plutôt bienveillant sur l'artisanat quand ils le regardaient réaliser. Mais quand moi j'étais jeune à 14 ans et que j'ai fait ce choix de la menuiserie, c'était pas très bien vu, c'était considéré comme une voie de garage, même si moi je n'y allais pas dans ce sens-là. J'ai eu honte à des moments dire ce que je faisais. Pas honte de ce que je faisais, mais honte de le dire par rapport au jugement des gens, au regard des gens. Alors, j'ai évolué sur l'impact du regard des gens sur moi, mais en tout cas, j'ai connu ça. Aujourd'hui, j'ai des gens qui rentrent dans la boutique avec des étoiles dans les yeux, qui rêvent de sortir de leur chaise de bureau et se mettre à vivre des métiers de l'artisanat, cette passion créative, ces choses-là. Je pense que ça attire des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui se sont créés. Enfin, la recherche de sens de la vie, du métier, de ces choses-là font que l'artisanat reprend une place.
Une juste place,
exactement. Alors après, c'est une juste place, de mon point de vue, assez mitigée. Il y a encore beaucoup de travail, c'est-à-dire que c'est une juste place esthétique. Maintenant, il faut que les artisans vivent mieux de leur art.
C'est ce que j'allais dire. Alors, justement, juste avant, je voulais citer une citation d'Aristote qui disait « Est doté de la main celui qui est doté de l'intelligence ». Voilà, donc il faut qu'on remette un peu l'église au milieu du village.
L'intelligence de la main, voilà.
L'intelligence de la main, c'est quand même très important.
Devenir un artisan à peu près complet, en tout cas pour être capable de faire son métier, c'est 10 ans. Donc, dans nos métiers essentiels, que sont les métiers de la médecine ou d'autres, où on voit souvent ces longues études, ce labeur pour en arriver là, qui est quelque chose qui a toujours été vu comme quelque chose de très respectable. L'artisan a sa place aussi d'indispensable dans notre société, et son savoir-faire est également long et fastidieux à acquérir, et on l'oublie un peu.
On l'oublie, on ne s'en rend pas forcément compte, et je trouve que c'est important que tu le dises aujourd'hui, que c'est 10 ans pour arriver à être un bon artisan, et c'est vrai que...
Et après, c'est toute une vie.
Et c'est toute une vie, bien sûr, d'apprentissage. Mais on n'imagine pas, c'est vrai, de la comparaison entre 10 ans de médecine et 10 ans... finalement, c'est... Et ça m'amène à la question suivante, c'est comment on monétise tout ça, parce que souvent dans l'imaginaire ou dans la réalité, les gens ont du mal à comprendre que ça vaut, voilà, qu'il faut quand même.
Il y a plein d'endroits, c'est un peu, enfin de mon point de vue, c'est un problème dans notre société, c'est l'éducation sur certains aspects et ouais. L'éducation autour de l'artisanat. L'apprentissage de ce qu'est l'artisanat est aussi quelque chose. Aujourd'hui, on est capable, pour le nom d'une marque, d'aller mettre des milliers d'euros sur des produits qui peuvent, pour certaines de ces marques, avoir des fabrications douteuses. Mais on serait choqué d'en mettre ne serait-ce qu'un quart de ce montant dans un travail fait par un artisan qu'on a vu fabriquer, où on est sûr de la qualité.
Oui.
Donc, on se trompe, en fait. On se trompe à un certain endroit, et en fait, reprendre certains codes de vie, d'être capable d'aller toquer en bas de chez soi et d'aller voir l'artisan, ne serait-ce que pour se renseigner, lui poser la question, savoir combien ça coûte. Je pense qu'il y a une idée reçue. Moi, dans ma boutique, je ne vends pas que des choses inabordables et je fais très attention à aussi avoir des choses que tout le monde peut s'acheter. On peut s'acheter un porte-carte dans ma boutique à partir de 40-45 euros et on ne paye pas la marque. On paye l'objet, la matière et le temps de fabrication. Je n'ai pas la prétention de m'amuser à vendre mon nom. Donc, et l'objet a été pensé durablement. Et si un jour vous avez un souci avec cet objet, vous venez voir l'artisan et l'artisan s'en occupe et sera heureux de faire ce qu'il faut sans rien vous demander pour que cet objet continue de perdurer. On met encore un amour et une valeur à ce qu'on fabrique, là où l'industrialisation a fait perdre ça à l'objet. On défend ça, en fait, nous, les artisans.
Donc, un objet de qualité...
durable,
réfléchi et qui va pas se démoder
le prix d'un objet de l'artisan, des fois il y a ces phrases qui passent sur les réseaux, il n'y a pas que des bonnes choses sur les réseaux, mais souvent j'aime bien ces phrases là qui disent que l'objet acheté chez l'artisan c'est des années de travail ou des loupés, avoir recommencé, s'être blessé, avoir donné, c'est une part de chaque artisan donne une part de soi dans chacun de ses objets et c'est assez juste. Moi quand je fabrique des choses et quand on vient me les commander, que je rencontre la personne, et ben ça, je le fais pas comme ça, quoi. Ça a une vraie dimension importante.
C'est une vraie dimension, de
satisfaire une personne, de faire quelque chose qui va prendre. Quand je recroise des gens qui m'ont acheté un sac il y a 10 ans et je les vois toujours avec ce sac qui est là, qui s'est juste patiné mais qui est pas abîmé, en fait, voilà, ça a une valeur intéressante. Complètement.
Et est-ce que tu es bien dans ton époque ? Alors, je te dis ça par rapport justement au fait qu'on soit dans une société de consommation quand même plus. Et voilà, contrairement à l'époque de nos grands-mères, où on était dans le durable et on fabriquait plus.
Je pense que je suis bien dans mon époque parce que... c'est une bonne question. Hein. En tout cas, je ne me sens pas vivre en parallèle. Je fabrique avec des outils modernes. Je ne suis pas contre le numérique. Je fais du travail qui mélange l'artisanat et sur certains aspects, des outils très modernes. Je transmets à plein de jeunes. Donc, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont envie de découvrir ça. Et moi, dans mon mode de vie, j'ai un mode de consommation qui est assez proche de monsieur et madame tout le monde. J'ai juste que j'essaye de défendre quelque chose avec un certain point de vue et ne pas me faire entraîner par certains aspects de notre époque qui me semblent un peu dérangeants, too much. Voilà.
Un peu too much. Donc, il n'y a pas de rejet particulier.
Non, pas de rejet.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
Dans ma paix, comme une moleque. A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Você torce pro PSG. Diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, recair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, je suis toujours avec Damien Béal et nous parlons de son métier de maroquinier, menuisier, artiste, artisan, créatif, créateur, inventeur, tout ça, il y a vraiment une palette incroyable et tout ça avec beaucoup de talent, avec tellement de talent que tu as créé la première marque de sacs
en bois et cuir
ouais. Française.
Il y a 10 ans.
C'est incroyable.
En novembre, effectivement.
Alors, comment est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet, de cette création ?
C'est un peu un hasard. Il y a 10 ans, je ferme mon entreprise de menuiserie par choix. J'ai une année un peu de battement où je bricole à droite à gauche, je fais des décors de je fais quelques décors de théâtre pour mon frère qui est metteur en scène, je travaille pour des anciens clients, enfin bref, et j'ai une amie Erika Stéphanie qui est mosaïste qui m'appelle et qui me demande si on peut faire une collaboration. Elle a une proposition pour faire un objet qui défilerait pendant un défilé de mode, Forest for Fashion à Genève, à l'ONU. Et donc, on fabrique ensemble ce sac tout en bois, incrusté de mosaïques réalisées par elle, et donc moi, la partie bois. Et de cette collaboration me vient l'idée de réaliser un sac avec du bois. Je trouvais très drôle l'idée du menuisier qui a un sac avec du bois. Et les choses sont parties comme ça. J'ai fait un premier sac avec de la feutrine. Au bout de quelques semaines, j'achète une peau à Paris chez Chatefaux, qui est encore qui est un vieux revendeur de cuir, une vieille entreprise qui existe depuis plusieurs générations, qui vend du cuir tannage végétal, qui est donc à côté de République. Et donc j'achète ma première peau chez lui, je suis hyper bien accueilli, on a quelques échanges, et par là une aventure où en fait je fais le choix de me laisser porter par ce qui se passe. Il y a un engouement autour des sacs que je crée, de cette originalité, et le cuir devient une matière qui se met à faire partie de mon quotidien autant que le bois.
Incroyable. Donc ça, c'est
de façon autodidacte.
De façon autodidacte. Ouais. Et donc, tu as rencontré un succès immédiat avec ces produits. Avec
j'ai fait quelques ventes éphémères. C'était il y a 10 ans, le début des boutiques éphémères, des pop-up stores. Hein, donc, j'ai fait quelques ventes comme ça. Il y a eu un engouement. Et puis après, moi, je l'ai poussé. J'ai fait des salons international comme maison objet qui m'a permis de distribuer. J'ai vendu au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Australie, enfin dans plein de pays.
Oui.
Ça a généré des belles collaborations autour des sacs. J'ai travaillé avec la marque de voitures Citroën, j'ai travaillé avec le chanteur Tété, j'ai fait des sacs tatoués avec l'artisan tatoueur Rob Rell. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont créées pendant 10 ans.
Mm-hmm. Donc des belles rencontres aussi.
Ouais, ouais, aussi avec Or Studio qui fait des choses extraordinaires aujourd'hui autour du cuir recyclé. Enfin voilà, il y a eu plein de rencontres, de choses. Et ça m'a amené à développer cette gamme de sacs avec du bois. Aujourd'hui, je fabrique aussi des sacs sans bois.
Mm-hmm.
Et d'autres objets. Et puis le cuir s'est intégré à du mobilier. Je suis revenu à mes premiers amours, des tabourets, du luminaire, tout ça. Et le cuir, le bois se marient pour les sacs, mais à d'autres endroits également. Et depuis 2 ans, sur des parties plus artistiques où je fais des tableaux, des tableaux en bois et cuir.
Qui sont magnifiques.
Merci beaucoup. C'est qu'ils sont très.
Vous irez voir sur le site de Damien. Donc
c'est un espace de travail qui s'appelle, pour les tableaux, qui s'appelle Damien Béal Forme Libre. Et puis après, on peut retrouver sur mon site internet damienbéal.fr ou sur Instagram à Damien Béal. On peut découvrir ça. Et puis récemment, un travail autour de la valorisation des chutes de cuir, parce que je génère des chutes de cuir. Et on parlait un peu de cette réflexion de l'évolution du métier.
Ouais.
Et puis j'ai créé il y a un an un tapis, un grand tapis réalisé à partir de plus de 3000 chutes de cuir assemblées qui s'appelle Ilo,
ouais.
Qui est un tapis nomade entre le tapis de yoga, le tatami, et ce tapis a eu un prix, le prix Île-de-France pour le concours Atelier d'art de France, donc il est en lice pour le concours, la partie France qui aura lieu en juillet, donc il faut croiser les doigts
juillet,
pour moi.
Voilà, c'est ça, donc exactement. Vraiment, on te souhaite vraiment beaucoup de succès.
Et c'est Ilo représente un peu un virage. J'aimerais demain arriver à gérer 100% de mes créations à partir de matières recyclées.
D'accord.
Et déjà, dans un premier temps, moi, utiliser 100% de ce que je consomme, c'est-à-dire acheter une peau et que 100% de ce morceau de cuir soit utilisé.
Qu'il n'y ait plus un millimètre.
Que tout soit transformé. Et mon idée est de faire une transformation plutôt autour de la valorisation sous forme d'œuvres, d'œuvres d'art, pour lui redonner une valeur même supplémentaire à ce qu'on peut voir, plutôt que de la transformer sous forme de quelque chose de matériaux broyés, reconstitués.
Ah oui,
voilà,
d'accord.
Je suis pas contre ça, mais je trouve intéressant, avant d'en arriver
d'aller
vers l'œuvre d'art en essayant d'inventer ce qu'on peut faire avec le moindre petit morceau de cuir, d'où le côté inventeur vient peut-être de là. Voilà, il y a aussi ça.
C'est magnifique, ce projet. On souhaite que tu aies le prix, parce
Merci
que c'est, ça, ça en vaut le coup. Alors, tu as des très beaux noms de produits, de sacs. Alors, il y a le quotidien, le strict minimum, le minimum pour ton vélo.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Pause week-end.
Le pause week-end. Effectivement,
c'est très bien choisi.
J'aime bien un peu dans cette idée que l'objet devient quelque chose qui nous appartient, auquel on s'attache, leur donner des noms.
Ouais.
Je trouve que ça donne du sens un peu en lien avec cette démarche de durabilité, quelque chose qu'on garde près de soi.
Ouais, et est-ce que tu penses que c'est réaliste, ça, cette envie et ce besoin de travailler uniquement avec des matières recyclées.
Je pense que c'est je pense que c'est réaliste, et surtout je pense que l'artisan de demain, ce sera ça son devoir, c'est-à-dire qu'un jour il y a des matières dont on n'aura plus accès comme on le désirait, et que l'artisan a un savoir-faire et que sa capacité à la transformation, à l'embellissement, à l'ingéniosité, à toutes ces choses-là. En fait, voilà, ce savoir-faire d'artisan d'art, il peut être mis au service de la matière. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on change un peu les comportements et qu'au lieu que la matière soit une ressource pour nous, soyons nous ressources pour la matière.
Ressources pour la matière,
ouais.
Ouais.
Voilà.
C'est
une réflexion qui part dans ce sens. Ça mettra du temps, mais en tout cas, je pense qu'il faut revoir un peu les choses différemment.
Oui, et toujours dans la citation d'Aristote, je continue. Donc, portons attention à ces intelligences manuelles. Nous ne pourrons pas nous en passer demain parce qu'elles sont uniques. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Et donc, ta réflexion d'aujourd'hui et de demain, c'est ça. C'est vraiment...
C'est une continuité. On a aujourd'hui toute une partie de l'artisanat d'art qui est de l'ordre de la restauration de notre patrimoine.
Oui.
Et bah, continuons de développer cet artisanat-là. On l'a vu pour Notre-Dame, les capacités qu'on avait à refaire vivre des choses qui s'abîment ou se détériorent. Il y a l'artisanat d'art qui est de l'ordre du patrimoine et il y a l'artisanat d'art qui est de l'ordre de la création qui peut faire préserver ce qui nous reste comme matière en l'utilisant de façon plus intelligente et moins dans la consommation en tout cas.
Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui te tentent, que tu as envie d'essayer de travailler,
J'aime beaucoup le laiton.
Oui.
Le laiton, les métaux, J'ai fait un peu de céramique avec Lucie Bolo, qui est ma voisine, où pendant le Covid, on a fait de l'échange d'ateliers. Donc, j'ai fait un peu de céramique. Je pense que toutes les matières m'intéressent en soi et ce qui va m'attirer, ce qui va m'amener à travailler une nouvelle matière va être une idée, une création, et où je ne m'empêcherai pas d'y aller si je ne connais pas cette matière. J'aurais plutôt tendance à avoir envie de l'apprendre.
Avoir envie de l'apprendre.
Et c'est, les choses se feront comme elles se sont faites pour le cuir. De m'autoriser à appréhender les choses. J'aime toujours aimer les bijoux et je trouve qu'aussi les métaux précieux sont des matières très intéressantes. Après... Dans l'avenir et les matières qu'il faudra réutiliser, recréer, revaloriser, je pense qu'il y en a dont on n'a pas encore forcément l'idée, mais peut-être qu'on se mettra à travailler des choses auxquelles on ne pense pas.
Oui.
La seule chose qu'il faudra faire, c'est de les embellir.
Et arriver à se vendre quand on est artisan, alors on voit que tu parles extrêmement bien de ton travail, on sent que tu es vraiment plus que passionné. Et est-ce que c'est facile d'arriver à se vendre pour en vivre ?
Non, c'est pas facile, c'est un choix de vie. C'est de la résilience. Je parlais de la résilience au niveau de l'apprentissage, elle se passe aussi à cet endroit-là. Non, c'est pas toujours simple. Il y a des bonnes années, il y a des années plus difficiles. Il y a des choses qui aident, il y a des périodes. On est très touché par la conjoncture en réalité.
Oui,
on est un peu le thermomètre, c'est-à-dire que quand tout va bien, les gens ont un regard sur ces ateliers plus présents et puis on n'est pas une priorité dans l'esprit des gens. Des fois, c'est plus difficile. Je vois des artisans autour de moi qui peuvent exercer depuis une trentaine d'années et qui... peuvent être dans des périodes comme actuellement, dans des périodes vraiment difficiles, prêts à mettre la clé sous la porte alors que leur activité a perduré 30 années. Moi, je trouve ça toujours un peu effroyable. Après, les choses sont comme ça. Il faut se réinventer, il faut se remettre en question. Et moi, je le fais. Ça m'arrive d'aller enseigner. Ça peut m'arriver de...
Oui, ce que tu transmets aussi.
J'aime bien l'idée de transmettre. Ouais. J'ai transmis un peu cette année au campus des métiers d'art à Versailles. Puis je prends des apprentis. Enfin, voilà, ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai envie de croire que dans les périodes de difficulté, il en sort des belles choses. Et les sacs sont nés d'une période de creux de mon activité, mes sacs en cuir.
Oui.
Et ça a bougé ma vie sur les 10 dernières années qui viennent de passer. Donc... De toute façon, rien n'est jamais facile.
Et tout est possible.
Et tout est possible. Mmh. Je pense que quand on aime, il faut y aller et juste être assez clair où sont ses priorités. Et voilà. Après, il faut manger. Donc, il y a quand même un juste milieu.
Il y a quand même un juste milieu.
Voilà. Mais ce n'est pas toujours simple. Non, ce n'est pas toujours simple.
Ouais.
Même quand on peut avoir de la visibilité et qu'on peut avoir un travail reconnu. C'est-à-dire que... On m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça très juste. Avoir réussi dans la vie ne veut pas dire qu'on mange bien. On peut très bien avoir réussi sa carrière, avoir eu un développement très beau, avoir fait de très belles choses.
C'est une satisfaction
qui est super, mais ça ne fait pas forcément toujours bien manger.
Ouais.
L'idéal, c'est quand on réussit et qu'en plus, on gagne sa vie un peu plus correctement.
Ouais.
Après, je fais partie de ces artisans qui, même si ce n'est pas toujours simple, vivent de leur métier et de leur passion. Et ça fait 18 ans que je suis à mon compte. Donc, en 18 ans, ça n'a pas toujours été facile. Mais ça fait quand même 18 ans
mais
que je suis là.
Mais tu t'en sors bien. Ouais. Voilà. Et puis, on te souhaite vraiment beaucoup de belles choses parce que moi, j'ai eu la chance de rentrer dans ton atelier boutique. Et c'est juste... Tout est absolument magnifique. Et puis... tellement soigné, tellement à ton image, à la fois rigoureux et très créative, plein de passion. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très beau. Donc, je vous invite à aller peut-être entrer dans ton atelier boutique si vous venez à Versailles.
Bien sûr, au 40
c'est,
rue d'Anjou.
Au 40 rue d'Anjou à Versailles. Donc, dans les carrés.
Dans les carrés Saint-Louis.
Dans les
tout
carrés
à fait.
Saint-Louis. Et puis, à aller pianoter sur votre ordinateur. Et aller voir donc, ton site damienbile.fr et ton compte Instagram. Enfin, il y a deux comptes Instagram.
Oui, il y en a même plusieurs.
Il y en a plusieurs,
que,
ouais.
Mais ils sont tous regroupés sur le compte Damien Béal. C'est Damien-du-bas-Béal sur Instagram. Et sinon, DamienBéal.fr, tout est accessible.
Tout est accessible.
Mais c'est vrai qu'il y a d'autres comptes Instagram qui regroupent d'autres, des parties créatives un peu plus ensemble, comme la partie forme libre des tableaux. J'ai créé une bague il y a quelques années, un bijou, donc il y a une page, la tâche parisienne. Enfin voilà, il y a quelques petits comptes comme ça un peu, mais tout est associé à Damien Béal.
À Damien Béal.
On peut voir un peu la variété de mon travail, effectivement.
Ok. Et puis donc, bonne chance pour le résultat du concours Atelier d'Art de France le 5 juillet.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir passé une heure à partager ton parcours magnifique. Et merci à la technique, à Célian Vianez et Armand Gury. Voilà. Merci à tout le monde et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.
Merci
au revoir
beaucoup.
Damien Béal.
Merci
à
encore.
Bientôt.
Merci. Au revoir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Se sale con tu amigo tu mami con todo mi chale ando de este chamba a loca bajé con un flow nuevo caja baby hackea lo muevo de lado a lado y otro lado hoy salgo con mi baby de la disco coronado ando de este chamba a loca que Dios me libre de volver a tu lado lo muevo de lado a lado y otro lado hoy salgo con mi baby de la disco coronado coronado yo voy con la falda aro y cadena piña colada no tengo pena estoy con la fefa ella es la jefa ella lo baila ella me enseña hoy no trabaja está morena fuck la fama fuck la faena la noche es larga la noche está buena mambo violento al fin del problema mira que fácil te lo voy a decir ABC 1, 2, 3 mira que fácil te lo voy a decir que estamos tomando.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.